Pauline Pucciano, Paradict, 15 mars 2072. Modification de la Constitution, pourquoi l'état d'urgence est nécessaire. Intensification des tensions diplomatiques avec la Chine, la WA affirme une volonté de changer de politique étrangère. Troisième guerre orientale, Elze Costa menace d'employer les grands moyens. Le Paradict, un flot de beauté et de lumière. Cain n'avait pas, comme Alvar, architecté de maison à lui. Il ne voulait aucune attache, fût-elle virtuelle, et s'était voué au mouvement sans fin, à l'errance. Loin des havres miraculeux où se pressaient la plupart des anges, il recherchait les tours sombres, les cavernes maudites, les sentiers désertiques et escarpés, architectés par des anges déchus. C'était plus qu'un intérêt intellectuel pour les fonctionnalités les plus déviantes, et donc les plus révélatrices du Paradict. C'était également un goût profondément personnel pour la solitude et sa liberté radicale. Le Paradict n'était pas un espace purement social, c'était aussi un espace de création où l'humain se réalisait lui-même dans ses aspects les plus inattendus et les plus insolites. Cain disposait des mêmes qualités qu'Abel, il s'intéressait à tout, apprenait vite, s'intégrait facilement, gagnait les confiances. Il avait donc été introduit dans des sphères très sélectives et rencontré des personnages réputés intouchables. Pour l'heure, il se rendait dans l'espace privé d'un ange nommé Baishi, rencontré quelques semaines auparavant. Les coordonnées qu'il possédait le menaient en bordure d'un domaine gigantesque qu'il lui fallait traverser avant d'espérer rencontrer son contact. Baishi était un architecte puissant, bien plus, à la vie d'Abel, que ce Marek Kansas dont Alvar lui rebattait les oreilles. Mais il fuyait les démonstrations populaires et n'était connu que d'un public d'initiés extrêmement fermé. Son œuvre se déployait dans ce domaine étrange, résolument symboliste, truffé d'objets animés de toutes sortes. Cain traversa une grande esplanade vide où se dressaient des colonnes brisées, des escaliers en colimaçon qui ne donnaient sur rien, des arches disposées selon des lignes immatérielles. Des statues rotatives se dressaient au centre de l'esplanade, tandis que des volumes géométriques flottants accomplissaient autour d'elle de mystérieuses révolutions. Déjà familier du lieu, Cain prit l'escalier en colimaçon le plus élevé et grimpa une centaine de marches. Lorsqu'il fut arrivé tout en haut, il se plaça exactement en face d'un miroitement dans l'air et, vainquant sa peur instinctive, fit un premier pas dans le vide dans sa direction. Il savait qu'il y avait dans l'air un chemin invisible et il le suivit délicatement. Le coup d'œil sur l'esplanade, de cette hauteur, était impressionnant, mais il se concentrait pour ne pas perdre l'équilibre, car il savait que l'espace où il pouvait marcher dans l'air était étroit. Enfin, il arriva jusqu'au miroitement qu'il traversa, et se retrouva sans aucune transition dans une sorte de nid d'aigle qui lui évoquait vaguement un monastère tibétain. Cette terrasse donnait de toute sa longueur sur le vide, à une altitude où dansaient des lambeaux de nuages. Des montagnes dressaient leur majesté lointaine, rose et bleue dans la distance, tandis que des oiseaux inconnus, au plumage d'un blanc neigeux, planaient à quelques mètres avec une lenteur irréelle. Baishi était là, face à l'abîme, assis sur une natte. Des bas-reliefs d'une incroyable complexité ornaient la terrasse, au milieu de laquelle, dans un bassin circulaire, s'ébattaient des carpes. L'ange sortit de sa méditation et se tourna vers Cain avec une expression bienveillante. « Jeune Cain, je ne pensais pas te revoir de si tôt. Pour quelle raison as-tu fait le long voyage pour venir jusqu'à moi » demanda-t-il. « Pour une raison grave. Je pense qu'il faut organiser une rencontre entre les architectes les plus puissants du Paradict et les groupes de hackers les plus doués. » « Une rencontre ?» répéta Baishi. « Quelque chose comme une réunion de l'état-major ?»« Oui, » déclara Cain. Y aurait-il une menace sur notre univers commun ? Cela ne fait plus de doute, dit Cain. Mes informations sont absolument sûres. Je t'ai parlé il y a quelques semaines de cette machine, Léviathan, à l'œuvre dans le monde réel. Baishi gloussa. Le monde réel ! Cela fait beau temps que je n'y vais plus. Ce qui s'y passe a perdu tout intérêt pour moi. Ainsi qu'Abel l'avait découvert, une poignée de gens avaient volontairement perdu pied avec le réel. Fortunés pour la plupart, ils avaient réglé une fois pour toutes le sort de leur corps, payant d'avance une société qui s'occupait de maintenir leur corps en vie et en bonne santé, dans un état de conscience appelé hypocoma. Dans cet état végétatif, il n'avait qu'une conscience très réduite, presque effacée, des stimuli extérieurs, et pouvait bénéficier d'une connexion permanente au paradict. Mais le monde réel, lui, redouble d'intérêt pour le paradict, en ces temps de dictature. Notre espace commun de liberté est menacé. « C'est impossible, » dit Baeshi. « Il existe des serveurs DNS, des data centers, des nœuds, dans toutes les zones du monde. Les câbles sous-marins sont innombrables. Cette question est un serpent de mer. Il n'est pas possible de détruire le paradict. » « Qui te parle de le détruire ?» Baeshi s'accorda une minute de réflexion. « Qui aurait la puissance pour en prendre le contrôle ?»« Une intelligence artificielle, Léviathan. » « Mais elle ne peut rien faire toute seule. Il lui faudrait une aide humaine pour assurer la connectique, qui doit être extrêmement complexe. » Considérons que Léviathan dispose de toutes les ressources de la WA, avec un service informatique de pointe, au budget illimité. Là, effectivement, nous aurions un sérieux problème. Un albatros, dépourvu de pattes arrière, aux ailes démesurées, frôla le parapet sculpté du bout de son aile. « Nous avons aussi de sérieuses cartes en main, » dit Abel. « Le directeur des services informatiques peut être mis dans notre poche. Nous avons un accès difficile, mais possible, à l'intelligence artificielle, et surtout à son concepteur. »« C'est toi qui organises cette fameuse réunion d'état-major ? » ?»« Je n'y arriverai jamais tout seul. J'ai besoin de ton aide. Je ne connais pas le dixième des architectes et des hackers qui pourraient nous aider. » Baeshi hocha la tête. Son intercession, ils le savaient tous les deux, serait déterminante. Il demeura silencieux un long moment, durant lequel toute la beauté de leur environnement se déversa en eux. « De l'action, enfin !» murmura Baeshi. Il fit une passe avec ses longues mains noueuses, et aussitôt un papier blanc et un pinceau de calligraphie apparurent. Cain le regarda tracer, d'une main lente et sûre, des idéogrammes parfaits, aux courbes délicates. Les signes, qu'il ne comprenait pas, lui paraissaient aussi indéchiffrables et fascinants que les arcanes d'un tarot divinatoire. C'était le destin d'un monde qui était en train de prendre sous ses yeux ses formes énigmatiques et définitives. Abel avait dû cajoler sa sœur pour être admis dans le sanctuaire. Il s'était juré de ne rien dire, de ne rien toucher, de gagner la confiance d'Elsée progressivement. Il lui semblait capital de démystifier la machine qui, auréolée de son nom immense, commençait à prendre dans l'esprit de chacun une dimension religieuse. Elsée, la première, avait participé à cette ferveur. Elle agissait en tout point comme une pythonisse dévouée à son dieu serpent, vierge qui avait fait don de ses organes féminins, réceptacle vide de la parole divine, prête à mourir pour lui servir de bouche, elle entourait Léviathan de secrets, de mystères, et gardait jalousement l'entrée du temple. Ses détracteurs le considéraient également comme un monstre ou un démon, comme Terence, par exemple, à qui il inspirait une horreur profonde. Il semblait que les gens qui gardaient la tête froide, trempés au bain glacé de l'athéisme, se faisaient rares. Les technophiles avaient toujours flirté avec le religieux, voyant dans la machine une métamorphose de l'humain, un chemin spirituel d'un nouveau type. Tout se passait comme si la rationalité numérique de Léviathan, portée au nu, avait écrasé de sa masse colossale tout embryon de rationalité humaine, et ce naufrage de la pensée humaine était plus effrayant encore que l'émergence de la machine. Il n'y avait eu, et il n'y aurait, aucune cérémonie d'intronisation, aucune date à retenir, aucun symbole du passage à la dictature. Cela se faisait de facto, sans aucune justification, sans aucun habillage. Contrairement aux dictatures du XXe siècle, qui avaient eu à cœur de faire adhérer les masses à leur idéologie, ces dictatures se présentaient comme non idéologiques. C'était une fatalité, imposée par les événements et le réchauffement climatique. Karl Courcelle avait décidé que cette partie de la gouvernance d'Elsée devait être passée sous silence et avait choisi comme axe de communication central le risque de guerre en Orient. Cela soudait la communauté de la WA, cela justifiait l'état d'urgence, cela créait une diversion d'envergure historique. Les médias officiels abondaient dans ce sens, de sorte que personne, dans le paysage médiatico-politique, n'abordait de front la question de ce qui était en train de se passer au niveau des institutions. Elsée, qui gardait depuis la mort de leur père les joues pâles, avait placé une chaise en retrait de l'interface principale de Léviathan, et Abel se trouvait donc à environ 1,50 m de la machine. Ses multiples écrans se couvraient en permanence d'images, de lignes de code, de textes, de calculs, L'écran principal affichait des données synthétiques, lisibles rapidement par une intelligence inférieure, songea Abel. Cette machine n'était qu'un tas de composants et de circuits, tout comme un être humain n'était qu'un tas de cellules. Mais, malgré le dépit qu'en éprouvait le jeune homme, il devait admettre que quelque chose se dégageait de cette organisation matérielle, quelque chose comme une présence. Une phrase apparut soudain sur l'écran, et Abel se sentit tressaillir. « J'ai besoin de données complémentaires sur le système du paradigme. La façon dont je l'avais intégré au modèle social général se révèle incohérente avec les premières données fournies par nos services. » Pat Navona et Sylvanisia Enko sont en train d'y travailler, répondit Elze. L'architecture interne du système possède encore pour moi des zones d'opacité incompatibles avec l'efficacité des calculs dans lesquels le paradigme entre en jeu. En l'absence d'une modélisation complète de ce système, ma capacité de calcul se trouve limitée. Abel toussota, hésitant à prendre la parole. « Ce n'est pas un être humain, dit Elze. Il ne réagira pas si tu parles en sa présence, à moins que tu ne t'adresses spécifiquement à lui. » Il me semble que le paradigme est un paramètre qui entre en jeu dans un bon nombre de réalités sociales, économiques, politiques et commerciales. Se pourrait-il que tous les calculs soient faussés ? Elze hocha la tête. « Quelle incidence cette incohérence peut-elle avoir sur les calculs que tu nous as déjà fournis ?»« Toute incohérence locale oblige à une reconfiguration générale du calcul. » Les calculs que tu nous as donnés comme base pour le budget 2072 sont-ils faux ? Tous les calculs devront être réeffectués lorsque l'incohérence sera réparée. Abel observa Elze, qui semblait interdite. Il mesurait l'abîme qu'elle entrevoyait sous ses pieds. Quelle est la marge d'erreur pour les calculs que tu nous as donnés ? 1,6%. Elze soupira et sourit d'un air soulagé. La marge d'erreur lui paraissait acceptable. Elle entama avec Léviathan ce qu'Abel avait du mal à appeler une conversation, plutôt un échange d'informations pendant lequel il réfléchit. Une victoire totale contre le terrorisme me paraît très souhaitable pour rallier les récalcitrants, dit-elle. Tout le monde adhère plus ou moins à l'idée, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Peux-tu me faire des préconisations pour l'éradication des théocrates ? Oui, en voilà une dizaine qui s'affiche sur l'écran A. Cependant, l'éradication des cellules terroristes ne me paraît pas prioritaire. Les attentats tendent à réguler la population mondiale et ne représentent pas un réel obstacle à la survie de l'espèce. Elze regarda de plus près les préconisations. La première tenait en trois mots, identifier, appréhender, éliminer. Tous les fichiers de toutes les agences régionales avaient été recoupés, les logiciels de reconnaissance faciale activés, et ce dans tous les domaines d'Internet. Une base de données de quelques milliers de personnes, d'adresses, de planques, s'affichait sur l'écran B. Un timing projectif sur l'écran C montrait qu'une éradication totale pouvait être réalisée entre 72 et 96 heures en faisant participer de 30 à 60% de l'effectif policier. L'écran D affichait une liste de lieux de culte à détruire, l'écran E comparait les coûts des différents modes d'exécution et prônait la pendaison. Abel, tout en observant sa sœur, songeait que Léviathan avait reconnu lui-même son caractère faillible. John Higgins et ses acolytes avaient pensé à modéliser tout le monde physique et tout le monde social. Ils avaient réalisé un travail d'une ampleur quasiment divine, mais ils avaient oublié le paradigme. Le « monde 3 », comme on disait parfois au XXe siècle, le monde à l'intérieur du monde, qui obéissait à d'autres règles. Le paradigme était le grain de sable qui enrayait l'engrenage des calculs, la matière noire de l'univers de Léviathan, son angle mort. Il dérangea sa sœur qui espérait, à la fin de la semaine, pouvoir répandre sur les ondes la bonne nouvelle de l'éradication d'un nouveau groupe terroriste. Abel songeait à Sonia, à qui les théocrates avaient arraché un être cher. Que penserait-elle de ces exécutions sommaires, de ces activistes pendus nuitamment et à la chaîne, sur la seule base d'un recoupement de données informatiques ? Applaudirait-elle, malgré elle, à la vengeance qu'elle croyait voir s'abattre ? J'ai besoin de savoir de quelles informations exactes Léviathan a besoin à propos du paradigme. Elze transmit la question. Carte des serveurs et des nœuds, accès illimité au data center, architecture générale du programme et si possible l'intégralité de son codage, je dois avoir une visibilité totale de la structure pour pouvoir la prévoir. Que fera-t-il ensuite ? Je ne sais pas dans le détail, mais il veut s'en servir pour contrôler l'opinion. Excuse-moi, Abel, je dois revenir à des sujets plus pressants. Et Abel se tut. Songeur. Elze soumettait à Léviathan tous les problèmes qui se posaient à elle, les nominations délicates, les protestations larvées, les déficits, les problèmes techniques, diplomatiques, les problèmes de santé publique, la guerre, et Léviathan, avec une énergie constante, proposait des solutions chiffrées, comparatives, avec des variables financières, humaines, éthiques. C'était Elsée qui tranchait, bien sûr, elle qui signait les décrets. Il lui aurait suffi de fermer à double tour la clé de cette petite salle attenante à son bureau pour que Léviathan n'ait plus aucun pouvoir. Mais il l'avait désignée parce qu'il savait déjà qu'elle ne le ferait pas et qu'elle se contenterait de devenir l'extension organique et sociale dont il avait besoin pour mener à bien le but ultime de sa programmation. « Quelle est la finalité du paradict ?» demanda Léviathan soudainement, en passant du coq à l'âne après une réponse faite à Elsée. Abel se sentait fasciné. Léviathan se posait des questions sur le paradict. Il était intrigué. Comment un supercalculateur pouvait-il en arriver à un tel questionnement? Le but ultime de la programmation du paradict, eh bien, je dirais le loisir, dit Elsée. Qu'est-ce que tu en penses, Abel?
Je dirais qu'il n'y en a pas, fit Abel.
Elsée répondit à Léviathan. Paradict n'a pas de fidélité. Pourquoi l'avoir créé? Demanda alors Léviathan. Est-ce une œuvre d'art?
Non, pas vraiment, dit Elsée.
En quoi est-il une menace pour la survie de l'espèce? Demanda Abel.
Elsée répéta la question à la machine, qui répondit immédiatement.
Parce que, sans finalité, il ne fait qu'empêcher les humains de s'occuper des problèmes réels.
Veux-tu lui donner une finalité?
Oui.
Laquelle?
La survie de l'espèce humaine. Abel ne put s'empêcher de penser à Cyril, à Oswald, et imagina leurs arguments. Il pensa à Terence aussi, dans son lit de douleur, vaincu par cette machine qui lui avait volé tout ce à quoi il avait œuvré. Il pensa à Baïchi, assis sur sa natte, au bord du merveilleux abîme.
« Je suis en surcharge cognitive, » déclara Elsée brusquement. « Sortons, il faut que j'appelle Karl. »
Ils quittèrent l'antre de la machine, qu'Elsée referma avec soin. Abel remarqua qu'elle conservait la clé sur elle. Détruire Léviathan lui paraissait maintenant une idée enfantine et grotesque. Suffisait-il de prendre une hache ou une masse et de le réduire en miettes? N'y avait-il pas des sauvegardes, des moyens innombrables de le rebooter? Faudrait-il également détruire toutes les archives de Higgins et de ses collaborateurs, s'en prendre à leur mémoire, à leur cerveau?
Cette question est un serpent de mer, avait dit Baïchi.
Il n'est pas possible de détruire le paradict. Léviathan était-il, lui aussi, immortel? Elsée, pour l'heure, était en train d'appeler Courseul.
« Il faut commencer à réfléchir à une annonce un peu triomphante. Les théocrates seront éradiqués d'ici vendredi, et ce n'est qu'un début. »
Abel regardait sa sœur, son petit nez pointu, son cerveau étroit, auquel les idées neuves avaient toujours donné la migraine. Comme elle était loin de l'image des dictateurs traditionnels.
« Abel, Karl propose que tu interviennes spécialement sur le dossier terroriste. Qu'en penses-tu ? »
« Bien sûr, » dit Abel.
Il avait renoncé à son visage, à son nom, à son image. Il avait bazardé tout cela. Se voir systématiquement associé à Elsée ne le dérangeait plus. Pour l'heure, il était plutôt obsédé par une question métaphysique, comme un dieu effrayé par la puissance irrémédiable de sa propre créature. L'humanité avait-elle le pouvoir de revenir en arrière ? Ce qu'on avait fait, pouvait-on le défaire ? Au fond de sa poitrine, invisible, battait son cœur. Un peu plus vite, un peu plus fort, à l'aube d'une mission à sa mesure, qu'il se donnait à lui-même, et qui allait requérir toutes les qualités qu'il avait déjà, et toutes celles qui lui manquaient encore. Il allait continuer, pied à pied, cette infiltration mortelle, pour être fusillé peut-être avec sa sœur, lorsqu'il atteindrait son but, si la dictature tombait un jour. Mais en attendant, il allait glaner et diffuser toutes les informations qu'il pourrait. Il y mettrait toute son intelligence et toute la passion dont était capable son âme forte. Sur la route, quelque part, Sonia, tannée par le soleil, sa robe traînant dans l'herbe humide, son ventre plein d'une vie frémissante, le parfum ancestral de la terre mouillée, les volutes de vapeur d'eau sur le chemin chauffé par le soleil. Alvar ne revenait pas de son bonheur. Était-ce là le mot qu'il fallait utiliser? S'échapper de la city, de la famille, de la WA, ressemblait à un envol. Tous les fardeaux inconscients accumulés sur ses épaules, qui voûtaient son corps et bridaient son esprit, s'étaient volatilisés. Il avait eu la sensation intime,
enivrante, de se déployer, et sa légèreté nouvelle lui donnait des ailes. Sonia n'avait jamais paru plus belle. Sa mélancolie s'était muée en douceur, en silence. Elle avait été délivrée de sa peur et de ses souvenirs, et ils vivaient ainsi, dans une simplicité inouïe, liée par des traditions millénaires au premier souffle de l'humanité. Ils construisaient des abris et faisaient du feu. Ils marchaient, ils cherchaient la nourriture. Ils subissaient l'angoisse des tempêtes et le froid de la pluie qui s'insinue jusqu'aux os. Puis ils éprouvaient avec intensité la joie de retrouver le soleil. Alvar avait appris à faire la cuisine et ses premières tentatives avaient fait grimacer et rire la caravane. Comme il ne savait pas chanter, il récitait des poèmes le soir, lors des veillées. Dans la simple nudité de vivre. Les rumeurs de la dictature parvenaient jusqu'à eux, au détour des chemins, portés par les vents capricieux, comme le fracas assourdi d'un orage lointain. Alvar ne s'en inquiétait pas, et se laissait enfin aller à l'instant présent. Il avait tourné le dos à l'histoire, et ne voyait pas que l'histoire, derrière lui, avait déjà commencé à le poursuivre. Bellefontaine, le 4 juillet 2018.